avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Avec les réseaux sociaux, la voix des jeunes est désormais partout en France, même s'ils sont largement minoritaires sur le plan démographique. Justement, nous allons parler de ces jeunesses en France, une génération fracturée par la perte de repères et de sens et qui fabrique aux marges des intégristes djihadistes, des réactionnaires anti-mariage gay, des conservateurs à la recherche d'une identité française ou encore parfois même des écolos anti-avortement et anti-mondialisation. Libérale. Ils sont vraiment à la marge, ces jeunes en révolte, mais dessinent-ils la France de demain? Nous allons en débattre avec nos invités qui commencent déjà de commenter l'actualité, avec ce jeune qui a giflé l'ex-premier ministre et candidat à la présidentielle Manuel Valls. En tout cas, dans le studio, quatre jeunes, Alexandre Devecchio, 29 ans, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez Les Nouveaux Enfants du siècle et vous êtes aussi responsable de Figaro Vox, qui est une plateforme de débat et opinion largement à la droite du quotidien de droite et qui apporte en tout cas une parole
au
libre.
Au cœur du quotidien de droite,
alors
à la droite,
libre ou décomplexée, je ne sais pas, hein, c'est selon, sur la société française. Nassira El Moadem, directrice du Bondi Blog. Bonjour Nassira.
Bonjour Emmanuel.
Ce média alternatif est né à la suite de la révolte des banlieues en 2005. Christophe Seltzer, vous avez 25-26 ans.
26 ans depuis quelques jours.
Alors vous n'êtes pas journaliste, vous coordonnez un réseau d'associations de tendance libérale qui s'appelle Students for Liberty, qui regroupe une centaine d'associations, et vous êtes également cofondateur d'un incubateur indépendant pour les jeunes qui veulent monter une start-up. Bref, vous comptez bien tirer parti de l'ubérisation de l'économie.
Tout à fait.
Vous êtes d'accord.
Et la suscité.
Philippine Lebray, 24 ans, journaliste pigiste et précaire. Vous collaborez entre autres à RFI et vous nous direz si vous reconnaissez une partie de votre génération dans la description d'Alexandre Devecchio de cette génération fracturée. Bien sûr, quant à vous les voisins, vous pouvez bien sûr participer aux discussions en nous appelant au 33 1 84 22 71 71. Un jeune qui gifle l'ancien Premier ministre. Le jeune est mal élevé.
Je ne sais pas. Ça témoigne en tout cas d'une perte de verticalité pour le moins. Ça rejoint en partie...
Une perte de verticalité ?
Oui.
C'est comme ça que vous commentez le geste ?
Oui, parce que je pense que malgré tout, l'autorité de l'État, c'est quelque chose qui compte, même si Manuel Valls n'est plus Premier ministre.
Donc la fin du respect des politiques ?
Ça, voilà. Mais après, c'est peut-être aussi parce que les politiques n'ont pas su se faire respecter. Il y a un déficit peut-être d'incarnation naturelle de l'autorité.
Et pour vous, Nassira El Moadem ?
Non mais c'est quand même incroyable qu'on tire des généralités et des leçons de morale sur un événement, un épiphénomène. Enfin voilà, il s'est passé ça. Alors maintenant, il va falloir comprendre qui est cette personne. C'est le travail des journalistes. Donc j'invite Alexandre Devecchio à aller enquêter sur qui est cette personne et pour quelle raison elle a fait cet acte-là. Maintenant, ce qui est très intéressant dans les commentaires de ces dernières 24 heures sur ce qui s'est passé, c'est la Bretagne. Ils ont le sang chaud. Ils sont énervés, mais j'imagine même pas si ce jeune-là avait été un jeune des banlieues, comme on aime dire.
Coup de chance,
si ça avait été à Aulnay-sous-Bois, les commentaires auraient été, on va dire, différents.
Philippine Lebray.
Oui, je ne sais pas si la Bretagne a le sang chaud, mais je suis tout à fait d'accord avec Nassira El Moadem. Mais surtout, ce que je trouve assez impressionnant, c'est l'espèce de bienveillance avec laquelle ce geste a été accueilli. Et ce matin même, dans la matinale de France Inter, Manuel Valls était l'invité de Patrick Cohen. Et une des personnes appelant au standard et qui est passée à l'antenne est arrivée au standard. Bonjour Manu, en fait on était 6 millions dehors à vouloir te foutre cette gifle, et il y a eu cette espèce de réaction.
Ça vous
assez
choque ou pas?
C'est fun quoi, foutre une gifle à un politique, c'est fun. Pas forcément.
Ça vous choque, ça vous interpelle?
Je trouve que c'est un peu... Je pense que ça prouve à quel point il y a une perte de confiance, une perte de respect, et puis une...
Pour la classe
oui,
politique.
Je suis assez d'accord avec ce manque de verticalité. Finalement, tout est mis un peu sur le même plan.
Bon, après, il ne faut pas oublier que c'est Manuel Valls, hein, qui est Manuel Valls,
qui
cristallise aussi un certain nombre de ressentiments à gauche, ouais. Et notamment peut-être chez certains jeunes, avec tout le débat qu'il y a eu autour de la loi travail, etc. Tout ça, je crois, pèse aussi dans le débat.
Ouais, je pense aussi l'acte bien bien sûr est condamnable. Malgré tout, on pourrait presque dire qu'il l'a bien cherché, parce que sur des choses comme, je ne sais pas, la déchéance de nationalité, je pense à l'état d'urgence aussi, moi c'est des choses qui me choquent profondément, pas particulièrement parce que je suis de gauche, mais parce que je suis libéral, et je ne donne pas bien cher de l'avenir, un grand avenir pour Manuel Valls. Quoi.
Bon, alors en tout cas, Alexandre Devecchio, vous nous dites dans votre livre « Les nouveaux enfants du siècle » qu'il se passe quelque chose du côté des jeunes, que l'on disait pendant longtemps désengagés, individualistes. Alors, s'agit-il vraiment d'un phénomène propre aux jeunes? Que se passe-t-il exactement? Que lisez-vous chez les jeunes? Donc vous faites partie.
Je pense que c'est un phénomène global, malgré tout. On voit qu'on a une société de plus en plus fracturée, de plus en plus en révolte, en réaction. Mais je crois que c'est encore plus particulier chez les jeunes, parce que c'est ce que j'explique dans mon livre. J'ai enquêté sur la génération qui est née aux alentours de la chute du mur de Berlin, à un moment donné où justement on rêvait d'une société plus libérale, d'une mondialisation heureuse, d'une fin de l'histoire, où finalement le politique se retirerait pour laisser la technocratie et le marché gouverner. Et finalement, cette génération qui a grandi dans cette époque-là, le scénario ne s'est pas passé comme prévu. C'est la génération de toutes les crises, crise économique d'abord, crise également culturelle, identitaire,
familiale.
Et enfin familiale.
C'est une génération du
familiale
divorce,
du divorce, beaucoup. Exactement. Et enfin, crise écologique, peut-être... demain. Donc, c'est pas du tout la génération de la mondialisation heureuse, mais j'ai envie de dire de l'identité malheureuse, et sur tous les plans. Hein, vous avez évoqué le divorce. Donc, c'est une génération qui, je crois, est en quête de repères. On parlait de verticalité.
Et donc, qui est en révolte. Il y a trois types de révolte. Hein. Il y en aurait sûrement d'autres, mais vous pouvez nous les citer, ces trois types de révolte que vous établissez. La génération Dieudonné, ce que vous appelez la génération Dieudonné. Hein. Mais alors là, il y a une espèce de magma à l'intérieur.
Oui, après, c'est décrit, les titres des générations sont comme ça, assez chocs, mais après, je rentre dans
gros,
le détail. Mais
ce une génération de jeunes largement antisémites, pour certains salafistes, jeunes de banlieue, tendance frères musulmans, Tariq Ramadan, c'est ça, pour faire très vite.
Oui, pour faire très vite, c'est ça, c'est une génération, là aussi, qui est le fruit, finalement, d'un antiracisme qui a produit exactement le contraire de ce qu'il voulait produire.
À savoir du communautarisme.
Du communautarisme, donc c'est une génération effectivement communautariste, identitaire aussi à sa manière, et qui pour une part fait sécession avec la France. Ouais. On a un discours de haine de la France qu'on a pu entendre notamment après les attentats de janvier.
Alors là, cette génération, ni de droite ni de gauche, hein, on ne sait pas vraiment d'ailleurs si elle va voter pour qui.
C'est un point commun,
les deux autres groupes sont très clairement des générations identitaires de droite. La génération que vous appelez Zemmour.
Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas pour qui elles vont voter, parce que là encore, ce que j'explique, c'est qu'il y a une explosion du clivage droite-gauche, mais effectivement, cette génération Zemmour, celle plutôt des... ce que j'allais dire entre guillemets, même si j'aime pas ethniciser les choses, des petits blancs.
Le nom d'un journaliste leader d'opinion désormais.
De la France périphérique, effectivement, qui se reconnaît dans le
petit
discours.
Petit blanc des pavillons lointains, comme vous dites.
Exactement. Et qui se reconnaît dans le discours d'Éric Zemmour, et qui a aussi sans doute grandi en réaction à l'autre. À la génération Dieudonné, et enfin une troisième génération
et qui se reconnaît aussi, cette génération Zemmour, dans entre autres dans une figure jeune féminine, Marion Maréchal Le Pen.
Oui, en partie, effectivement, c'est l'une des égéries de cette génération-là. Elle répond à la fois aux questions identitaires, aux questions éthiques, puisque c'est une des seules femmes politiques qui s'est vraiment engagée sur la question du mariage pour tous, mais également à la question de la mondialisation dont je parlais tout à l'heure, avec une vision assez critique de l'Europe, de l'immigration, etc. Donc c'est vrai qu'elle correspond à cette génération-là et aux angoisses de cette... Elle répond bien aux angoisses de cette génération-là.
Et puis le troisième courant, également en révolte.
Oui, alors le troisième courant est différent sociologiquement du premier, même si, enfin de la génération Zemmour. C'est une jeunesse un peu plus privilégiée, un peu plus intellectuelle, mais qui est également préoccupée par les questions identitaires, qui s'est levée. C'est une génération qui est issue de la manif pour tous. C'est une génération généralement de jeunes catholiques qui s'est levée au moment des manifestations contre la loi Taubira, et elle recoupe un peu la génération Zemmour sur certains plans, sur la question de l'identité, sur la question de la famille, mais effectivement, sociologiquement, elle est un peu différente.
Alors, vous ne prétendez pas avoir ratissé toutes les jeunesses françaises. Vous avez ratissé exclusivement aux marges, et encore.
Je pense que le phénomène est plus massif qu'on veut bien le croire. Mais après, je prétends pas faire un tableau exhaustif de la jeunesse. Mais par exemple, si on prend la génération Zemmour, on voit bien que le vote FN est aujourd'hui le premier parti chez les jeunes qui votent, du moins chez 30% des jeunes. Donc c'est quand même un chiffre conséquent qui doit interpeller. Les médias ont tendance à focaliser.
Donc une marge large, on va dire.
Oui, c'est une marge large. Et je crois surtout il y a un basculement puisque la jeunesse était structurellement de gauche. Depuis mai 68.
En tout cas progressiste.
Progressiste, et c'est plus le cas. On a une jeunesse anti-progressiste qui devient majoritaire.
Comment vous réagissez les uns les autres?
J'aurais une question sur
Christophe Selzer.
Ce qui vient juste d'être dit, le Front National, plus il monte et moins il est conservateur. Donc est-ce que ça ne vient pas contrecarrer justement la logique dont tu parles, Alexandre?
J'ai pas dit que c'était des ultra réactionnaires cette jeunesse là non plus, donc effectivement le FN s'est dédiabolisé en partie, et donc un discours qui est plus audible, un discours social également sur le plan économique qui peut parler à cette jeunesse là au
mais
moment
que tu,
justement
que tu n'abordes quasiment
au
pas
moment
dans le livre,
justement
hein, c'est ça le problème.
Où, pardon, je peux finir, ouais. Je disais qu'un discours plus social au moment justement où la gauche a un discours de plus en plus libéral, que ce soit à travers Manuel Valls, on en a parlé, ou à travers Emmanuel Macron, donc effectivement il y a le FN parle à cette génération. Le FN reste malgré tout, je crois, un parti plutôt conservateur sur les valeurs.
En tout cas, avec un positionnement ambigu sur le social. Nasser
El-Mohadem. C'est intéressant ce que dit Alexandre, parce que finalement, effectivement, en répondant à la question de Christophe, il se rend compte en fait du défaut principal du livre, qui n'évoque pas du tout les racines, les origines, les causes sociales de ce problème-là. Et donc, en fait, on est sur du constat. En magma, je suis assez d'accord avec le mot que vous avez utilisé en introduction, on a des blocs comme ça, complètement monolithiques, sans jamais vraiment analyser les passerelles qui puissent exister entre les uns et les autres. On nous parle de génération dieudonnée. Déjà moi, les termes génériques comme ça, je trouve quand on est journaliste, c'est assez dangereux en fait, hein, parce que on est quand même censé être dans la précision, dans le diagnostic un peu fin
attendez,
situations.
Il n'y a pas d'enquête sociologique réelle sur tous ces courants qui se dessinent au jour le jour, au gré des réseaux sociaux,
mais
de
si
toute
on a
façon,
l'ambition,
pour la
crois,
défense
de faire...
d'Alexandre de Vecchio.
Je crois, je termine là-dessus, et je trouve que l'ambition et le sujet est honorable, mais on passe vraiment complètement à côté. C'est-à-dire que
à côté de quoi ?
je n'apprends rien en fait sur qui sommes-nous aujourd'hui, qui sont ces jeunes. Ça, je l'écoute, je le regarde à la télé tous les jours.
Vous vous reconnaissez dans aucune des trois générations ?
Non, mais je crois qu'ici, on est nombreux, à mon avis, à ne pas s'y reconnaître.
Moi, je ne me reconnais absolument pas, parce que pour moi, c'est des générations qui sont très minoritaires. Le travail d'Alexandre est intéressant, mais c'est des générations extrêmement minoritaires qui bénéficient aujourd'hui, comme tout à chacun, des outils, Internet, les réseaux sociaux, de nouveaux médias, qui du coup donnent une impression un peu de surreprésentation, qui en fait bénéficient de ces outils même de la mondialisation qui sont par ailleurs décriés. C'est assez drôle, parce que finalement, si ces milieux conservateurs, réactionnaires, etc. sont plus visibles, c'est parce qu'ils utilisent des iPhones, ils utilisent des réseaux sociaux, comme tout le monde. Mais moi, j'ai envie de parler de plein d'autres générations qui existent, et puis on a des chiffres qui contredisent tout ça. J'ai l'enquête Génération Ouest, on a des Européens
génération
qui sont...
quoi, oui, l'enquête sociologique.
Voilà, et surtout, pour quelles raisons elles existent de cette manière-là, ces générations-là? Alors, le problème,
je crois que si tu avais lu le livre, parce que je sais que tu l'as reçu hier, je suppose que malgré tout, il y a une... Enfin, il y a une explication. J'ai commencé à en parler avec le phénomène de la mondialisation. Je disais que c'était une jeunesse qui était née au moment de la chute du mur de Berlin. J'ai parlé des crises, donc j'ai commencé à parler des facteurs. Donc, quand tu m'expliques que Il n'y a pas de, je ne parle pas des raisons objectives. Je crois qu'au contraire, tout le livre s'intéresse aux causes et essaie de leur donner la parole. Essaie de leur donner la parole.
Philippine Lebray.
Oui, moi qui suis plus jeune que toi, donne-moi la parole. Moi, je pense en fait que tout le propos du livre, c'est de faire rentrer la jeunesse dans ta vision du monde. Et enfin, je trouve qu'un des exemples assez frappants de ça, c'est la façon dont tu décris les trois générations. La génération Dieudonné, dans tes mots, est la seule responsable en fait de ce qui lui arrive, tandis que les deux autres, tu le disais en début d'émission, par exemple, la génération Zemmour, s'est construite en génération, en réaction à la génération Dieudonné. Et je trouve qu'il y a un certain nombre d'imprécisions dans ce livre qui sont vraiment extrêmement dommageables. Par exemple, toujours pour revenir à cette génération de Dieudonné, sur la question de l'identité de cette prétendue génération Dieudonné, qui reviendrait à des identités algériennes, marocaines, issues de l'histoire de leurs parents, etc.
Donc le problème serait avant tout un problème ethnique plutôt que d'être un problème social.
Qui ne se reconnaîtrait pas dans la France, c'est faux. En janvier 2016, l'INED a sorti l'étude Trajectoire et Origine, extrêmement fouillée, qui portait sur 22 000 personnes. 93% des enfants d'immigrés se reconnaissaient dans l'idée qu'ils étaient avant tout français. 93%. Ça veut dire que ce dont tu parles, s'ils existent véritablement dans la forme que tu leur donnes, ça représente 7% des enfants d'immigrés. C'est rien, c'est complètement minoritaire.
Encore une fois, je ne prétends pas être exhaustif. On peut jeter les enquêtes à la figure. Je peux te citer par exemple l'enquête de l'Institut Montaigne qui a été faite récemment. Alors, ce n'est pas sur les immigrants.
Qui a prêté à débat.
Qui a prêté à débat, mais l'Institut Montaigne n'est quand même pas
connu pour être un... Sur le fait que les Français issus de l'immigration mal dans les valeurs françaises et dans l'identité française.
Et l'Institut Montaigne, je ne crois pas, est connu pour être un institut ultra-réactionnaire. C'est un institut libéral, donc je pense que les résultats de l'enquête les gênaient plutôt qu'autre chose. On a vu qu'ils ont essayé de tendre les chiffres dans tous les sens et que ça ne correspondait pas à ce qu'ils attendaient. Et qu'effectivement, il y avait une grande partie de la jeunesse ne se reconnaissait plus du tout dans les valeurs de la République et qui se tournait vers un islam de plus en plus radical. Je ne l'ai pas inventé.
Vous cherchez à faire rentrer ces jeunesses dans votre vision de la jeunesse. C'est vrai que ces jeunesses fracturées qui se divisent, qui se déchirent sur des valeurs avant tout culturelles, notamment par rapport aux valeurs de leurs aînés issus de la génération 68. Est-ce que vous pensez sincèrement aujourd'hui que les jeunes sont omnubilés par 68 mai 68 qui aurait tout bousillé, alors que plus personne ne sait ce qui s'est réellement passé? D'ailleurs, c'est peu enseigné et les jeunes sont peu cultivés sur ces courants-là.
Et que Marine Le Pen est la première de ces 68 heures d'aujourd'hui.
Je pense que les générations qui font l'histoire sont souvent les minorités actives, celles qui font de la politique. Et pour le coup, mon enquête ne prétend pas être exhaustive, mais je me suis intéressé notamment aux minorités actives, et elles, effectivement, sont omnibulées par mai 68, et depuis 5 ans, elles font un travail qu'on pourrait dire gramscien, de combat culturel, qui commence à porter ses fruits. On le voit dans les médias, on le voit en politique, par exemple, même à droite, avec l'élection de François Fillon, où on voit que le courant issu de la Manif pour tous a pesé. Donc c'est simplement ce que j'explique. Donc effectivement, tous les jeunes ne sont pas omnibulés par mai 68, mais une partie des jeunes qui sont politisés s'intéressent à l'histoire de France. Et j'ai presque envie de dire, tant mieux.
Ouais, ceux qui ne sont pas au chômage s'intéressent à l'histoire de France, peut-être.
Pas forcément.
Les jeunes sont deux fois plus au chômage que la moyenne nationale.
J'ai fait le livre aussi pour avoir leur parole, parce qu'on me dit, j'ai pas enquêté, etc., etc. C'est un livre nourri avec extrêmement beaucoup de verbatim, et pour une fois on entend la parole de ces jeunes-là, et souvent des jeunes qui sont
décortiquez bien les réseaux, voilà, qui parlent avec qui, etc.,
qui sont parfois caricaturés. Je pense aux jeunes FN, on en parle beaucoup mais on les entend peu parler. Alors, je ne sais pas s'ils sont au chômage. Tu as beaucoup de représentants des jeunes FN sur les plateaux. Souvent, le discours, c'est justement celui du jeune prolétaire, semi-analphabète au chômage. Là, on a vu qu'il y en a même à Sciences Po. Ils ont un discours sur l'histoire, etc. Et même les gens dans les classes défavorisées, ça ne les empêche pas aujourd'hui de s'intéresser, pour certains, à la politique et à comment fonctionne le monde. Donc, il ne faut pas avoir... cette vision-là. Et après, le chômage est un phénomène massif chez les jeunes, vous avez raison de le souligner.
Ce qui est sûr, c'est qu'Internet contribue quand même à mettre en surbrillance des positions, des identités qui ne correspondent pas forcément au centre de la jeunesse ou au ventre mou de la jeunesse. Je ne sais pas comment vous voulez vous définir les autres. Alexandre Devecchio, Nassira El-Mohadem, Christophe Selzer et Philippine Lebret, vous restez avec nous, suite de notre débat sur les jeunesses françaises, dans un peu plus de 3 minutes. Ce sera juste après le flash. Restez avec nous.
RFI, la sélection. 7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez. Suite de notre émission 7 milliards de voisins, nous débattons sur les fractures de la jeunesse française à quelques mois de l'élection présidentielle. Une élection qui, a priori, devrait mobiliser davantage les jeunes que les autres élections. On en discute avec vous, Alexandre Devecchio. Vous publiez Les nouveaux enfants du siècle. Vous nous parliez de ces révoltes de jeunes dont vous faisiez la liste en première partie d'émission. Deux grands courants de droite, Manif pour tous, anti-mariage gay, un courant plus identitaire, Front National, Éric Zemmour, et puis un courant que vous appelez Dieudonné, à savoir davantage dans les territoires de banlieue, antisémites, voire salafistes, enfin voilà, pour caricaturer, bien évidemment, mais enfin, en tout cas des courants que l'on lit sur les réseaux sociaux très largement aujourd'hui, des jeunes qui s'expriment. Nous en débattons avec Nassira El-Mohadem, directrice du Bondi Blog, Christophe Selzer, vous appartenez à une jeunesse de tendance libérale qui regroupe des associations qui s'appellent Students for Liberty, et Philippine Lebret, vous êtes journaliste, pigiste et précaire. Voilà. Nassira El-Mohadem, vous souhaitiez reprendre la parole
parce qu'on a
analyses d'Alexandre Devecchio.
Oui, et puis le contenu du livre, on n'a pas eu l'occasion d'en discuter, et Alexandre a eu cette phrase en disant que je n'avais pas lu son livre. J'ai lu ton livre, et d'ailleurs j'ai perdu du temps en fait en le lisant, mais c'est pas grave, il fallait le faire pour cette émission, avec des vérités qui sont assénées comme ça, comme des vérités sociologiques. Par exemple, je cite, la promesse multiculturaliste a débouché sur le choc des civilisations. Alors ça, sans aucune explication. Et puis, l'idéologie progressiste connaît sous nos yeux la plus convulsive des agonies. Enfin voilà, c'est quand même souvent des successions de phrases qui sont présentées comme des vérités historiques, sociologiques, qui ne sont pas interrogées dans leur essence même. Et moi, ça me pose un problème dans la méthode. Et puis ensuite, en allant plus loin dans le débat sur la question de l'ethnicisation, c'est un livre qui effectivement ethnicise le débat entre d'un côté des blancs victimes et de l'autre des blacks, des beurs, puisqu'ils ne sont jamais appelés des noirs et des arabes, alors qu'en français on dit des noirs et des arabes, ce n'est pas une insulte, donc des noirs et des arabes qui sont les coupables, qui sont celles et ceux qui oppriment le reste des autres jeunesses.
Qui ont en commun ces trois jeunesses de rechercher des cadres culturels, voire religieux, qui s'intéressent peut-être davantage à la Bible et au Coran, qui recherchent des repères, des limites,
absolument,
des règles.
Mais le problème, c'est que depuis tout à l'heure, on se dit entre nous, et je pense qu'on a fait ce constat-là en disant que tout ça est très minoritaire, et même Alexandre le reconnaît. Mais le souci, c'est que en fait, toute cette succession de petits cas minoritaires donne l'impression, donne l'impression de vouloir donner un tableau général d'une jeunesse. Et en fait, il est là le travers de ce livre.
Vous leur reprochez d'additionner des révoltes.
Oui, tout à fait, absolument. D'être dans une addition de révoltes qui donnerait l'impression de faire le panorama, le diagnostic d'une jeunesse. Et en fait, ce n'est pas la vraie vie. C'est-à-dire que
mais Alexandre Devecchio, est-ce que vous, par exemple, vous reconnaissez dans ces révoltes ?
Je n'ai pas l'impression d'habiter le même pays que Nassira. Et pourtant, on a grandi dans les mêmes quartiers. Sans même parler de ce que je vois et de ce que beaucoup de Français voient. Et dénonce de plus en plus dans ces quartiers-là et même ailleurs. C'est pas moi qui ai inventé qu'on a traversé une série d'attentats sanglants entre 2015 et 2016. Donc dire qu'il ne se passe rien dans la société française et même dans les sociétés. Et ça a commencé en 2012, merci, ça a commencé bien avant. Il y a eu les émeutes des banlieues. Donc dire que ce sont simplement des
épiphénomènes. Oui, et les attentats.
Je peux finir, oui, je fais le. Non, ce n'est pas extrêmement grave. Je l'explique.
Absolument.
Je l'explique dans le livre. Je pense qu'on a laissé se creuser un terreau culturel.
Vous parlez d'un aveuglement à droite et à gauche,
des banlieues, et que le principal problème de la société française est un problème de communautarisme et d'une idéologie qui s'est enquistée, qui est une idéologie extrêmement radicale et extrêmement dangereuse.
Donc, il n'y a
pas
effectivement, de 45% de chômage chez les jeunes dans
pardon,
les
je peux finir. Peux,
il n'y a
je
pas
peux
de
finir.
Problème d'éducation prioritaire dans
finir,
les quartiers.
J'en parle aussi.
Il n'y a pas de question culturelle.
Si je ne peux pas poursuivre un raisonnement de deux minutes.
Non, mais c'est une contre-vérité. C'est une contre-vérité et un mensonge historique.
Sur l'aspect culturel et après, on parlera des difficultés économiques.
Non, mais pardon, Emmanuel, mais c'est important. Les révoltes de 2005, c'est suite à la mort de Ziad Benna et Bouna Traoré qui sont morts dans un transformateur EDF. À un moment, il faut juste donner
peux,
des repères.
Répondre,
non, 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 mais là, là pour, la mémoire, pour la mémoire, pour la mémoire, pardon.
Eh ben, je vais rappeler en
tu
mémoire
as été,
certains
tu as été blogueur
faits.
Du Bondi Blog.
Oui, mais j'étais...
Tu as quand même
alors,
un
les bons sentiments,
de mémoire
mais ne réglez pas vos comptes personnels. Soyons lisibles pour le débat, pour nos auditeurs,
c'est important quand même
de dire
que... Si, si, il y a un devoir de mémoire. Alors moi, je le dis en tant que directrice du Bondi Blog, journaliste et directrice du Bondi Blog, je le dis... Il y a un devoir de mémoire sur la question des révoltes dans les quartiers. Tout ça est à la suite de la mort de Ziad Bouna et Bena Traoré. Donc ça, au moins, on ne peut pas non plus l'inventer. Et la salafisation des quartiers, d'abord, moi, j'aimerais bien qu'on puisse m'expliquer ce que ça veut dire. Et quand même, je pense que pour toutes celles et ceux qui vivent dans les quartiers aujourd'hui, le vrai problème, c'est l'enquistement, c'est le fait de ne pas pouvoir être mobile, ouais. C'est le fait de perdre une année de scolarité dans toute sa scolarité due au fait qu'on ne puisse pas remplacer les profs parce qu'il n'y a pas de profs qui puissent venir remplacer les profs absents dans les écoles, les collèges et les lycées. Tout ça, c'est ça la réalité des quartiers populaires. Ouais. C'est ça. Et c'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Et ensuite, le reste, ce qu'on explique et ce que Alexandre tente, en n'y arrivant pas, à mon avis, d'expliquer, tout ça est une conséquence. Mais si on n'analyse pas les raisons pour lesquelles on est arrivé à cette situation-là pour une frange infime de notre jeunesse, on passe complètement à côté des sujets, du sujet et tu es passé complètement à côté de ce sujet.
Alexandre Devecchio.
Alors, je vais répondre, mais j'aimerais bien répondre sans être coupé toutes les deux minutes, sinon
non, c'est important. Quand tu fais des
sinon,
contre-vérités, des mensonges, c'est
débat,
important de,
débat avec
de rétablir
elle-même,
une certaine
avec
règle.
Elle-même, j'ai des désaccords avec toi, mais je vais te les reprendre un par un. Il le faut, puisque je suis quand même accusé de tous les maux. D'abord, la question sociale. La question sociale n'est pas du tout éludée dans le livre. J'explique que les politiques de rénovation urbaine ont eu leur intérêt, bien sûr. Quand on vient dans un on vit dans un environnement sale, qui ne fait pas envie, ça compte dans l'intégration. Donc je le nie pas, mais je dis que ça ne
ils
suffit pas.
Ils sont complètement intégrés, ces gens.
Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ensuite, pour ce qui est de la question précise des émeutes de banlieue, il y a quand même un fait que tu ne soulignes pas. Tout est parti effectivement de Zined et Bouna à Clichy-sous-Bois, mais les émeutes se sont propagées dans toute la France suite, je rappelle ça aux auditeurs qui connaissent pas, peut-être pas ce fait-là, mais Gilles Kepel en a parlé, d'autres en ont parlé, suite à une grenade lacrymogène qui s'est retrouvée dans une mosquée.
Où ça ?
Par accident, à Clichy-sous-Bois. Et les émeutes se sont propagées de là. Donc là, on voyait déjà qu'il y avait une question
culturelle. 10 ans plus tard,
c'est une contre-vérité.
On ne va pas rester fixé sur 2005.
Ça fait longtemps que je ne me suis pas exprimé. J'ai envie de réagir. Quand je lis Les Nouveaux Enfants du Siècle, j'ai l'impression en fait d'assister au baroud d'honneur d'un certain nombre de générations de la droite qui, quelque part, connaissent un suicide. Ce n'est pas le suicide français, c'est le suicide de la droite ou de certaines franges de la droite.
Vous appartenez à la droite libérale, vous reconnaissez?
Non, je n'appartiens pas du tout à la droite. Je suis libéral, mais je n'appartiens pas du tout à la droite.
C'est vrai, vous les étiquettes droite-gauche maintenant.
Du coup, j'ai l'impression que l'identité malheureuse, elle est vécue par un certain nombre de personnes, effectivement, mais à droite. Mais ça ne concerne pas l'ensemble de la France. Et puis surtout, on n'est pas du tout en train de proposer des choses dans cet ouvrage-là, et ni même ici. Et c'est quand même la grande question pour moi. C'est comment est-ce qu'on change les choses? Et même pour quelqu'un qui est de droite et probablement un peu nationaliste, et je le dis pas, c'est pas pour le lui reprocher à Alexandre, mais s'il est nationaliste, qu'est-ce qu'il propose comme sens pour le pays? C'est-à-dire que là, il est en train d'exacerber les communautarismes, finalement, en exhibant diverses sous-cultures de droite très particulières, et qui sont en train de d'hystériser le débat, alors qu'on a tout un tas de nouvelles générations, de nouveaux projets, on a tout un tas de barrières réglementaires,
alors,
fiscales,
justement,
là, je tombe sur un sujet plus économique,
mais... Décoder relayez un peu le débat pour
c'est
nos auditeurs. Alexandre de Vecchio, en gros, vous dites la vraie ligne de partage, c'est entre l'homme enraciné, hein, on se souviendra du discours fondateur d'ailleurs de François Fillon, et l'homme ubérisé. Christophe Selzer, puisque vous êtes de tendance libérale largement assumée, donc vous êtes l'homme ubérisé, donc vous vous opposez à l'homme enraciné dans des valeurs culturelles.
Je vais prendre mon exemple personnel. Moi, j'ai été élevé sans télé pendant une dizaine d'années. J'ai relativement vécu en dehors de pas mal de choses. Et aujourd'hui, effectivement, je suis sur les réseaux sociaux, c'est des outils que j'utilise. Pour moi, il n'y a pas de... Enfin, on est encore en train de créer un faux débat entre racine et ubérisation. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui,
pour des jeunes...
Ou en tout
cas, identité nationale et mondialisation heureuse.
Je sais pas ce que c'est que la mondialisation. Ce que je sais, c'est qu'il y a des gens de plus en plus connectés via des outils internet. Il y a la problématique aussi de la mobilité physique. C'est important de pouvoir permettre. Mais enfin, vous savez, pour 400 euros, vous pouvez très facilement aller même dans des pays lointains. C'est des choses qu'on peut trouver quand on est jeune et qu'on est débrouillard. Donc c'est ça qu'il faut arriver à développer. Mmh. C'est ça qu'il faut arriver à proposer. Et je pense que quand on prend la parole dans un média ou qu'on est un responsable politique, je crois que c'est très important de pouvoir proposer des cas. D'expliquer ce qui peut exister, de créer du sens, de créer un projet pour le pays, encore une fois.
Philippine Lebray.
Oui, enfin, je suis d'accord avec Christophe dans le sens où tout ce que décrit Alexandre va dans le sens de rupture, de fracture. Et par exemple, pour prendre quelque chose qui, moi, m'est cher, la question de la culture, tu dis, Alexandre, que ces générations que tu décris dans ton livre ont en tout cas comme point commun de ne pas avoir eu accès à la culture comme comme leurs aînés, avec donc un rejet du récit national, si tant est qu'on sait ce que c'est. Mais je pense que c'est tout à fait faux. Je regardais, il n'y a pas longtemps, les chiffres de fréquentation des salles de ciné en France sont tombés. Record de fréquentation historique pour l'année 2016.
Alors, ouais, mais par qui ? Des jeunes ou des retraités ?
Sans qu'on ait les particularités de les jeunes ou les retraités. Mais typiquement, un des films les plus vus cette année en France, c'est Zootopie, film d'animation de Disney. Clairement, ce n'est pas les plus de 65 ans qui sont allés voir ce film. Et Zootopie, on peut dire que c'est de la culture extrêmement populaire. L'histoire d'un petit lapin qui veut devenir policier dans une société peuplée uniquement d'animaux. D'accord ? Très bien, c'est facile, c'est drôle, c'est entraînant et c'est accessible à tous. Mais Zootopie, ça parle aussi de questions assez profondes, notamment sur la question du féminisme, puisque la petite lapine qui est l'héroïne de ce film ne veut pas être assignée à la place qu'on lui donne. Des questions de racisme, puisqu'on lui explique que les lapins, ça cultive les carottes et non, elle veut être policière comme les gros, mammifères anciennement carnivores. Et donc je pense qu'il n'y a pas fondamentalement d'opposition entre une jeunesse qui serait aujourd'hui accro aux réseaux sociaux et donc incapable de lire un bouquin, et des générations au-dessus.
Mon propos, d'autant plus que cette jeunesse que je décris est très connectée. Ce que je dis, c'est que ce qui est étonnant, c'est qu'elle est à la fois...
C'est ce qui fait sa visibilité.
Elle est à la fois post-moderne et anti-moderne. Donc je pointe aussi...
Mais toujours dans une connotation négative, Alexandre.
On ne peut pas discuter avec toi. Donc,
c'est dans une connotation négative.
Je ne peux pas dire deux mots, donc ce n'est pas la peine. Déjà, j'en ai trois.
Alors, je voudrais qu'on parle du terrain économique et du débat sur l'économie.
Non, mais si je peux pas développer une idée.
Le débat de la présidentielle va se faire bien sûr beaucoup sur des questions d'identité culturelle aujourd'hui.
À cause de ce genre de livre en plus.
Pas seulement, parce qu'il y a la question de la mine des migrants, etc.
J'aimerais bien que ce soit à cause de mon livre. Ça veut dire que j'ai une audience exceptionnelle.
Non, ça veut dire que tu suis juste le mouvement.
Vous décrivez, Alexandre de Vecchio, une jeunesse de droite, à savoir le think tank Sens Commun, qui a rejoint le Parti Les Républicains, qui est une génération que vous décrivez comme plus, en tout cas un groupe qui se veut plus mystique que matérialiste, qui est avide de littérature, de philosophie, qui est cultivé, mais qui a quand même rejoint le parti Les Républicains, dans lequel se reconnaissent aussi les patrons du CAC 40. Vous nous dites aujourd'hui qu'il y a cette jeunesse de droite qui est plus anti-matérialiste qu'anti-libérale, néanmoins qui se veut également anti-libérale. Comment tout ça va se recoller au moment de la présidentielle ?
Je pense que ça se recolle, très mal.
Alors c'est que François Fillon a quand même annoncé qu'il prévoyait le détricotage de la sécurité sociale et des 35 heures.
Oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a peu de leaders politiques qui représentent cette jeunesse et ce courant-là. On parlait tout à l'heure du clivage droite-gauche. Je crois que cette jeunesse ne se reconnaît plus du tout dans le clivage droite-gauche, qu'elle est née justement à une époque de mondialisation, la guerre froide est finie et que l'enjeu et plutôt entre ceux qui sont partisans de toujours plus d'ouverture et ceux qui sont partisans des limites. Sciences Commun a fait le choix de soutenir François Fillon, mais je crois qu'ils ne sont pas dupes justement des limites du programme de François Fillon.
Mais alors, à quel moment va avoir lieu le schisme
Je pense que
et la critique de la croissance.
Je parlais tout d'abord d'un combat culturel. Je crois qu'ils ont fait le choix d'être dans un combat culturel de long terme, d'un choix d'entrisme assumé, et ils espèrent changer la droite de l'intérieur, et ça prendra du temps. Ils en sont conscients. D'autres choisissent des stratégies de rupture.
C'est pas un peu utopique, je sais pas. En ce moment, on a le forum économique de Davos. Est-ce qu'on entend beaucoup de jeunes issus de la contestation de droite et des révoltes de droite que vous citez? Est-ce qu'on les entend au moment du forum économique de Davos, puisqu'ils se disent justement contre la globalisation et la brutalité de la globalisation économique?
Je pense qu'ils sont que sur le plan économique, ils partagent. Ils sont extrêmement critiques sur ce forum.
Ils sont divers.
Ils
sont déjà divers même à droite.
Parce que le deuxième clivage, excusez-moi. J'essaie d'expliquer parce que c'est effectivement les enjeux sont compliqués. C'est-à-dire ils sont à la fois anti-libéraux et anti-libertaires. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fusion possible avec la gauche de la gauche, même s'ils ont essayé. Hein. On se souvient que les Veilleurs, qui sont un des courants de la Manif pour tous, ont essayé d'aller rencontrer les zadistes, ils ont essayé d'aller rencontrer Nuit debout, et pour le coup, le sectarisme était plutôt à la gauche de la gauche, ils se sont fait traiter d'homophobes, etc.
Puisqu'effectivement,
sur les questions de mœurs et les questions, ils ont un positionnement beaucoup plus conservateur. Leur conservatisme, pardon, est intégral, aussi bien sur le plan économique que sur le plan culturel et des mœurs.
Sur le sectarisme, etc. Et l'homophobie, je pense que tu te fourvoies sur la définition du sectarisme. Puisque par définition, créer un mouvement dont le mot d'ordre est de lutter contre les droits de certaines personnes en raison de leur orientation sexuelle, c'est extrêmement sectaire et ça exclut de fait une partie importante de la jeunesse.
Je ne pense pas que ce soit que le but de la manif pour tous, en tout cas pas pour cette jeunesse-là, c'était d'exclure des minorités. Je pense qu'ils pensaient que la logique de la loi Taubira nous conduisait à une marchandisation de la vie
et
qu'ils se sont
levés
contre ça. Donc je pense que c'est extrêmement manichéen la manière dont vous présentez.
Mais le message de la manif pour tous est excluant. Tu ne peux pas dire que l'objectif n'est pas excluant. Le message même exclut.
Je pense que tu donnes des leçons de journaliste, Nassira, je pense que tu devrais aller leur parler, aller sur le terrain, voir quelles sont leurs motivations.
On est tous ici autour de la table, on a tous écouté les messages de la manif.
Trois ans après les débats et la manif pour tous et le vote de la loi qui autorise le mariage homosexuel, est-ce que les jeunes, aujourd'hui, une partie importante de la jeunesse française est restée bloquée sur ce débat-là?
Y compris ces militants-là ne sont pas bloqués là-dessus, ils sont beaucoup plus sur des enjeux comme la GPA.
Ils se sont trouvés de nouveaux combats parce que le mariage pour tous est rentré dans les mœurs. Ils ont compris que ça n'avait aucun sens de lutter contre juste une égalité de droits. Et donc maintenant, ils sont sur, comme tu le dis, sur la GPA, la PMA pour toutes. Mais
je crois quand même ce mouvement dont on se moquait un peu. On pensait qu'il n'aurait aucune influence. Déjà, il y a eu 1 million de personnes dans la rue, plutôt des jeunes, ce qui était quand même étonnant et inattendu. On a vu que dans le camp inverse, il n'y avait pas
plutôt
du tout
des jeunes,
de mobilisation. Il n'y avait pas de mobilisation dans le camp inverse. On n'a pas vu des manifestations mariage pour tous. Et ensuite, quand je parlais de combat culturel et d'influence à droite, et là je fais juste une analyse d'analyste, je ne dis pas si c'est bien ou c'est mal, il se trouve qu'aujourd'hui ça a de l'influence et que ce sont des mouvements qui comptent dans les médias, dans la culture et en politique.
Moi j'aimerais juste revenir sur ce que disait tout à l'heure Alexandre sur la question économique, avec cette idée selon laquelle, selon lui, il y aurait ceux qui sont pour l'ouverture et ceux qui sont pour limiter. Mais ça c'est complètement dépassé comme clivage, c'est complètement dépassé, ça c'est so 80s, pardon, so 80s, non mais vraiment quoi. Aujourd'hui on a des jeunes, et je pense qu'autour de la table on partagera cette idée, qui veulent de l'ouverture, qui veulent des possibilités, mais qui veulent aussi que ces possibilités soit protégée.
Vous parlez avec une
protection, que ce soit une protection sociale, par exemple, pour les chauffeurs Uber. Moi, je pense que tous ici autour de la table, on en rencontre régulièrement, qui nous disent, moi, je veux continuer à travailler de manière indépendante, mais je veux aussi qu'on me protège socialement. Je veux aussi pouvoir cotiser pour le chômage, je veux pouvoir avoir accès à ma retraite. Et c'est ça l'enjeu. C'est plus l'enjeu de l'ouverture ou de la fermeture. Ça s'est complètement dépassé.
Mais tu l'as dit toi-même. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Comme quoi, quand tu peux être constructive, c'est bien. Mais tu l'as dit toi-même. Je pense que c'est une gêne. Quand je disais.
Tu n'aimes pas la contradiction,
quand je disais qu'ils sont ouverts aux réseaux sociaux, ils sont modernes, en fait. Et ils ne sont pas contre l'ouverture, ils voyagent, etc. Mais ils ont souci des protections.
Mais tu as dit le contraire tout à l'heure.
Ils ont l'impression qu'on a bousculé toutes les frontières et veulent le retour de certaines frontières, de certaines limites.
Ça ne veut pas
dire des barricades ni des fils barbelés. Ça veut simplement dire des protections. Et je crois qu'effectivement, l'un des enjeux de la prochaine présidentielle, ce sera ceux qui veulent toujours plus d'ouverture au risque de fragiliser les individus, de les atomiser, et ceux qui disent maintenant il faut certaines barrières à l'économie de marché, notamment au flux de personnes incontrôlées. Pour créer une société.
C'est pas du tout ce que je dis, attention, hein. N'interprète pas mes propos, je parle bien de protection sociale, je parle bien de protection.
Moi je parle de protection sociale et culturelle, je parle des deux parce que je pense qu'il y a un souci de protectionnisme intégral.
Et là,
ce qui ne veut pas dire qu'on revient au Moyen-Âge et.
Aux années 50. On parle d'atomisation de la société. Et moi je vois de nouvelles opportunités, de nouvelles solidarités qui se créent justement avec ces outils.
Nassira a eu raison, vous avez déjà discuté avec un chauffeur Uber, vous avez l'impression que.
D'abord, il n'y a pas que les chauffeurs Uber, vous avez par exemple des chauffeurs Hitch,
je m'adresse à un défenseur de l'ubérisation.
C'est le symbole de ces travailleurs précaires.
Mais c'est dommage parce que du coup, tu n'as pas entendu l'explication de ce que je mets derrière l'ubérisation, parce que c'est un terme vide aussi. Ce qui m'intéresse, c'est de voir de nouvelles solidarités qui se créent, de nouvelles organisations sociales, start-up, associations, et moi j'ai envie d'en voir de plus en plus. Parce que toi, tu crois en l'État pour tout organiser.└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ c'est parce que l'État a tout organisé et au fur et à mesure des décennies encore davantage récemment,
je pense au
que du coup on a individualisé, on a atomisé la société. Et là, il est urgent que les gens puissent coopérer à nouveau ensemble dans tous les domaines. Et il se trouve qu'il y a un mouvement de fond.
Et en toute liberté pour vous, alors qu'Alexandre dit
mouvement de fond.
Je pense que vous croyez surtout en l'autorité, Alexandre.
Juste, ce qui m'intéresse, c'est de voir que ça se développe toujours davantage aujourd'hui, ces nouvelles associations, start-up. Et je pense qu'on est dans notre rôle que d'inciter les gens à le faire. Et c'est comme ça qu'on recrée un sens que chacun veut se donner là où il est.
Mais en les protégeant, Christophe, en les protégeant quand même. Parce que c'est vrai qu'on a quand même un mouvement de fond. Moi, autour de moi, j'ai des gens qui étaient salariés et qui aujourd'hui sont dans la création de leur entreprise. C'est très bien. Mais après, quand tu échoues, quand tu es chef d'entreprise, malheureusement, tu n'as pas le droit au chômage, par exemple, ce genre de choses. Si on a un mouvement de fond comme ça, où un certain nombre de jeunes veulent être indépendants, il faut qu'ils puissent être protégés en cas de défaillance. Et le problème, c'est que le système aujourd'hui, il ne répond pas à ça, et que d'ailleurs, les candidats à l'élection présidentielle, ne répondent à ce problème-là.
Ça, c'est une vraie question,
qui pour moi, est essentielle.
Là, on parle de la jeunesse. Il y a des propositions que je ne partage pas toutes, à titre personnel, mais il y a la proposition du revenu minimum universel, qui est faite par Génération Libre, Gaspard par Koenig, il y a Benoît Hamon qui le reprend dans la primaire de gauche, il y a Emmanuel Macron qui s'adresse aussi à cette question du chômage quand on sort d'un système, d'un statut de salarié.
Alors, pendant qu'on discute de ces questions-là, vous, les jeunes,
ça,
que vous décrivez...
Mais ce sont les vrais sujets,
On a l'impression, Alexandre Devecchio, que pendant que là, nos autres invités discutent de questions économiques, les jeunes générations en révolte que vous décrivez, eux, s'occupent de Jeanne d'Arc.
Non, c'est caricatural. Je crois que les deux se mêlent. Les deux se mêlent. L'insécurité économique crée aussi de l'insécurité culturelle. On a l'air de dire que je dresse les jeunes les uns contre les autres. C'est faux. C'est un livre anticommunautariste. Je constate juste que ce système-là, finalement, cette insécurité économique, crée des tribus, en fait, et une fragmentation de la société. Je ne partage pas du tout l'analyse qui a été faite, parce que depuis les années 80, effectivement, l'État se retire de tout. On laisse de plus en plus le marché gouverner dans un phénomène de construction européenne notamment. Et on voit bien aujourd'hui que ça ne marche pas, que cette utopie libérale de la mondialisation heureuse ne marche pas, produit du malheur, et en partie du malheur identitaire, puisqu'il y a aussi une circulation des personnes. Or, les personnes ne sont pas des atomes, et quand elles circulent, quand elles arrivent dans un pays, il faut qu'elles s'intègrent.
Mais pourquoi des jeunes comme vous dans ces cas-là
l'homme n'est pas une marchandise comme les autres. Ça, c'est pour la partie culturelle, et pour la partie économique, c'est pareil. Il y a une très grande précarisation de la jeunesse qui crée de l'insécurité et de la frustration. Quand il y a de l'insécurité et de la frustration, et qu'en plus les politiques ne défendent plus de grands projets culturels pour l'avenir, et bien on se tourne.
Il est où ton projet culturel?
On se tourne vers les idéologies les plus radicales. C'est ce que j'explique dans mon livre.
C'est loin d'être vrai. Enfin, tu dis ça, tu répètes ça à longueur de livre, mais pourtant c'est faux. Enfin, on peut par exemple prendre l'exemple de, je ne sais pas moi, Ouda Benyamina qui a réalisé Divine, qui est clairement dans une dynamique de revendication d'une place qu'on ne lui a pas faite en tant que femme, en tant qu'issue des quartiers, en tant que racisée. Elle est clairement dans un objectif de revendication lié aussi à une forme de précarité parce qu'elle n'a pas les moyens de faire du cinéma parce qu'on ne lui donne pas ses moyens. Et pourtant, sa réponse, c'est pas une idéologie radicale. Sa réponse, c'est quoi? C'est de faire un film extrêmement maîtrisé en termes de réalisation, et c'est d'arriver sur la scène du Festival de Cannes, grand lieu de réunion de ce que tu appelles les bobos, pour dire, bah voilà, maintenant vous nous avez pas donné de place, donc on va la prendre. Ça ne se fera pas dans la violence, ça se fera dans une forme de création artistique.
Et en plus,
ça
c'est la partie visible, mais il y a tous ceux qui sont dans ce mouvement-là qu'on ne voit pas, et ils sont nombreux. Et en fait, tout cela... Alexandre n'en parle pas, mais il n'en parle pas parce qu'il ne les connaît pas, il sait qu'ils existent. Il a décidé de ne pas en parler. Et c'est ça, en fait, moi, qui me dérange dans ce livre.
En tout cas, vous êtes d'accord sur...
J'ai décidé de parler de la montée des radicalités.
Est-ce que vous êtes d'accord, tous les quatre, pour dire que les jeunes sont en train de retrouver une conscience politique, un intérêt pour la chose commune?
Oui, c'est quelque chose qui m'a frappé. C'est l'un des aspects les plus positifs de ce que je décris, parce qu'il y a des aspects inquiétants. Je le nie pas. Moi, je trouve ça intéressant qu'on ait une jeunesse qui se réidéologise.
Nasser Al-Mohadem,
moi, je m'inscris en faux dans ce qu'il dit, hein, puisqu'on va reprendre les propos du livre.
Non, mais est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que les jeunes se repolitisent?
Je réagis juste à ça. Il dit le militantisme d'hier, aujourd'hui, c'est du radicalisme. Donc, il dit exactement l'inverse dans son
pas de la bonne organisation. On peut sortir des phrases comme ça.
Est-ce que vous vous repolitisez? Moi, mais là, Alexandre de Vecchio donc m'accuse que cette livre n'est pas dans son bouquin, donc c'est page 9 pour les lecteurs et pour les auditeurs.
Livre de 300
au militantisme d'hier, c'est substitué au radicalisme d'aujourd'hui. Donc cette phrase, il l'a bien écrite.
Je pense que la jeunesse n'est pas aussi triste que le décrit Alexandre de Vecchio, et je pense que là où il dit qu'il va falloir qu'elle refasse ce qui a été défait, non, je pense qu'il faut qu'elle invente ce qui n'a pas été encore fait.
Est-ce qu'elle se repolitise ou pas?
Pas forcément, parce que ça passe pas forcément par la politique telle qu'on la connaît aujourd'hui.
En fait, elle se repolitise, mais tout à fait autrement, et c'est tout ça qui est intéressant. C'est qu'elle crée du sens, parce qu'elle ne s'est jamais désintéressée de la politique, c'est juste qu'elle s'est désintéressée de la façon dont on la faisait.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à vous quatre. Alexandre de Vecchio, il faut vous lire Les Nouveaux Enfants du Siècle, c'est paru aux éditions du Cerf. Nasser Al-Mohadem, directrice du Bondi Blog, et Christophe Selzer, vous appartenez à Students for Liberty. Et Philippine Lebray, vous êtes journaliste indépendante, comme on dit pudiquement, ou pigiste et précaire, c'est comme on veut. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Camille Nérand, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. Demain, 7 milliards de voisins. Autre sujet, à demain.
Suivez la Coupe d'Afrique des Nations.